Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mboujima au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bon début des semaines en compagnie de la fréquence de la paix Radio Capi qui vous propose ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. C'est depuis le jeudi 6 mai dernier qu'est entré en vigueur l'état de siège décrété par le président Félix Tshisekedi dans les provinces du Nord Kivu et Ituri dans le cadre de la lutte contre l'insécurité avec la nomination des gouverneurs militaires et vice-gouverneurs policiers dans ces deux provinces. Au regard des nombreux défis qui attendent ces nouvelles autorités et dans le contexte de l'état de siège, quels sont, selon vous, les préalables pour la réussite de leur travail? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour vos interventions en direct. Vous pouvez également commenter ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Pour participer à Paroles aux Auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Paroles aux Auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Willem Lungamba sur la mise en onde de ce magazine réalisé par Jocelyne Mukindi. Quant à moi, Pierrot et la Mégie, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans ces débats citoyens. Et pour échanger, nous recevons dans ce studio Monsieur Jackson Aoussé, député national élu du Rumu dans la province de l'Ituri. Monsieur Aoussé, bonjour.
Bonjour messieurs les journalistes, bonjour aux auditeurs.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait presque quelques mois que vous avez été au front de déclaration à l'Assemblée nationale pour qu'on prenne à cœur la situation de l'insécurité en Ituri et au Nord Kivu.
Nous sommes très heureux aujourd'hui qu'on en arrive là. On a été au front, comme tu avais dit, on a été avec la population. On a organisé des tables rondes, on a organisé des séances de sensibilisation et on est venu vers les institutions pour leur rappeler les devoirs qui étaient les leurs. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux que les institutions puissent prendre compte de la gravité, effectivement, de la situation sur le terrain. Monsieur le journaliste, ce n'est pas une question que nous pouvons prendre des périphériques, ce qui se passe en Ituri et au Nord Kivu. Nous sommes aujourd'hui à plus de 5000 personnes tuées à seulement depuis 2017 dans ces deux provinces. Nous sommes à plus de 3 millions de personnes déplacées. Nous sommes à plus ou moins 5000 élèves qui ne peuvent pas aller à l'école. Donc le tableau humanitaire de ces zones est catastrophique. J'ai même dit, quelque part là où on m'a invité, j'ai dit, c'est bien bon, c'est une bonne action forte qu'on attendait, mais c'est venu un peu à retard. C'est venu un peu à retard parce que nos frères, nos sœurs, nos mères qui sont mortes, qui sont tués, ils ne vont pas venir avec nous. Et c'est ce qui nous agace, c'est ce qui nous dit, bon, que leur mémoire repose à paix. Et nous sommes en train d'initier d'ailleurs un projet ou une proposition de loi pour consacrer une journée de commémoration à la mémoire de toutes les victimes qui sont tombées par ces massacres à l'est du pays.
Alors, on a la mesure de l'état de siège. Il y a des grands défis, on sait, qui attendent ces deux gouverneurs militaires. Alors, en bref, vous revenez du terrain. Quelles sont les grandes lignes des défis majeurs aujourd'hui auxquels ils sont obligés de faire face, que ce soit en Ituri ou bien dans la province du Nord Kivu?
Les défis restent les retours des déplacés. C'est cela les défis. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis 3 millions de personnes n'est pas moindre. Il y a des pays africains qui n'ont que 3 millions de personnes. 3 millions de personnes dans la rue, ils sont en errance, sans abri, sans assistance. Le premier défi reste la sécurisation de ce village pour que ces gens-là rentrent dans leur village. C'est par là que nous devons pouvoir commencer. Et un deuxième défi, c'est aussi mettre fin à l'existence de groupes armés. On ne doit pas continuer à observer et puissamment que les groupes armés naissent, se prolifèrent comme ça, où nous avons, dans une petite province comme Ituri, des 5 territoires, on a plus de 12 groupes armés qui n'est-ce pas, dans cette zone-là. Ah donc, le défi reste le retour. C'est cela le défi, le retour des populations, que les gens quittent les cas de fortune, parce qu'il n'y a pas de cas aussi, les gens construisent par des pailles, les gens, et ainsi de suite, les gens sont morts. Je vous informe qu'il y a les femmes enceintes qui sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas aller au centre de santé, ils se sont déplacés, les enfants, ainsi de suite. Vous allez aujourd'hui à Bounia, les gens qui vont vous accueillir, c'est la route de l'aéroport, ce sont les enfants en errance. Les enfants en errance. Donc le plus grand défi, c'est la sécurisation des villages qui passe bien sûr par mettre fin au phénomène groupes armés afin que les gens rentrent. Si les gens vont rentrer dans leur village, et je pense que ces autorités militaires nous auront rendu grand service.
Alors, on sait que il faut quand même qu'il y ait des actions d'accompagnement. C'est ce que nous appelons les préalables dans ce débat. Alors, pour vous, quels sont les préalables majeurs qui doivent accompagner l'action de ces nouvelles autorités?
Avant qu'on en parle des éléments d'accompagnement, il y a un autre préalable, il y a deux ou trois préalables moraux, d'ordre moral. Le premier préalable d'ordre moral, c'est le comportement de ces officiers, de ces hauts officiers. Parce que c'est aussi la condition sine qua non. Parce qu'on peut tout leur donner. Parce qu'en termes d'accompagnement, j'entends parler de conditionnement. L'accompagnement lié au conditionnement des militaires sur le terrain. Ça, pour moi, ça doit venir après. Le premier enjeu, le premier élément, c'est le comportement de ces militaires, de ces hauts officiers. Le deuxième élément, c'est leur dévouement, leur attachement, leur amour au pays. Nous sommes là à l'Est. Ce sont des zones très sensibles. Ce sont des zones qui ont une certaine particularité. Même les autorités civiles qui s'y rendent, parfois se compromettent. Tout simplement parce qu'ils arrivent à être tentés et ils cèdent.
Ah donc. Et la moralité des officiers, et ça c'est très important.
Exact. Donc je pense que le reste d'éléments d'accompagnement ne peuvent venir qu'après que nous nous mettions d'accord sur le comportement, l'aspect moral, comme vous venez de le dire, et le dévouement de ces officiers. Ils ne déméritent pas. Ce sont des officiers compétents. Leur compétence est approuvée. Ils viennent de l'administration militaire ou de l'administration civile. Ils savent cette zone, pour la plupart. Ils connaissent, parce que toute l'armée qui est dans cette zone-là, c'est elle qui les gère de par leur administration.
Ouais.
Donc nous comprenons par là qu'ils ont la maîtrise de la zone. Ils sont informés. Ils sont informés. S'ils peuvent échouer, franchement, ça sera de la mauvaise foi. Ce sera de la mauvaise foi. Moi, j'insiste, leur comportement, leur dévouement, leur attachement à leur nation, c'est un élément essentiel sur lequel d'autres facteurs vont venir se greffer pour que leur mission soit une réussite totale.
Voilà, nous avons les auditeurs qui sont de l'autre côté du standard 081-890-49-69, 081-890-49-69 pour intervenir en direct. Vous pouvez également continuer à débattre ces sujets sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Nous avons quelques auditeurs qui sont en ligne, qui voudraient bien sûr prendre parole à ces débats. Nous avons Franck, Franck est avec nous de Vienne. Franck, merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour mon ami Pierrot, bonjour à votre équipe au studio, bonjour aussi à l'honorable qui est là sur place avec vous et à tous les amis avec qui nous allons nous échanger.
Alors comme vous avez suivi, notre débat c'est autour des préalables qui doivent accompagner les nouvelles autorités militaires de ces deux provinces dans la lutte efficace contre l'insécurité. Quelles sont vos propositions?
Oui, merci beaucoup pour la suggestion de cette thématique. Si nous devons repartir de ce qui a été évoqué lors de la conférence de la presse du ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement, une conférence à laquelle ont été associés un de nos généraux de FADC et de la police nationale, dès l'entrée des jeux, nous le savons tous que l'état de siège, c'est une situation politico-militaire qui nécessite un certain nombre de choses à maîtriser avant de faire certaines suggestions ou des analyses de fond. Puis, en analysant et en réanalysant les déclarations du général de FADC présent à la dite conférence, personnellement, j'ai pu comprendre que nos forces armées sont en mesure de mettre fin à cette situation, car il a reconnu que le FADC dispose de tout. Et s'il dispose de tout, il y a lieu de nous dire que cette option prise est la bonne. Ainsi, nous osons espérer que dans les jours qui suivent, nos compatriotes de la partie Est pourront vraiment vivre en paix. Mais seulement nous savons que chez nous, il y a des différences entre le dire et le faire. On peut faire des promesses sans les matérialiser. Et de telles promesses, on nous les fait toujours. Même si on a dit qu'on ne peut pas faire beaucoup d'analyses, beaucoup de déclarations. Mais moi, je crois que là, je vais revenir sur ce que l'invité vient de dire par rapport aux défis. Le premier défi pour moi, c'est d'abord la volonté politique et militaire qui doit être mise en place de part et d'autre. Et par volonté politique et militaire, il faut qu'il y ait quand même une franche collaboration entre les deux secteurs. Donc, il faut qu'on alloue ce qui est nécessaire pour la logistique, pour les salaires, pour la nourriture. Il faut vraiment qu'on mette les hommes qu'il faut là où ils doivent être. Ce n'est pas à nous de les leur dire, ils le savent. Mais les critères de la moralité, parce que nous revenons chaque fois sur la moralité. On passe devant les micros, on dit, on annonce, et après on se rend compte que on a seulement dit mais rien ne s'est fait. Donc quand par exemple on dit qu'on est à mesure de mettre fin à cette situation d'insécurité, mais le peuple écoute, le peuple suit. Mais après 6 mois, si on se rend compte qu'on a dit des choses qui n'ont pas été matérialisées et que nous qui sommes civils ou nous qui sommes analystes, nous mettons à analyser les choses, il y en a qui disent, vous le faites, vous êtes à distance, vous le dites, vous n'êtes pas sur place. Mais quand même, mon ami Pierrot, quand même c'est trop. Donc, on a beaucoup de... On a une armée sur place, on a la MONUSCO, on ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe là? Vraiment qu'on nous dise exactement ce qu'il faut. On a dit que l'armée a maintenant ce qui est nécessaire pour affronter ces rebelles. On attend. On nous a demandé de les soutenir. On nous a demandé de ne pas trop faire de commentaires. On nous a demandé de les soutenir de l'intérieur. Nous les soutenons, mais avec espoir que nos amis, nos compatriotes de l'Est, nos frères de l'Est vont aussi commencer à vivre en paix. Parce qu'on ne peut pas se développer tant qu'il y a des instabilités comme ça. Parce qu'un État, un pays, c'est un tout. Quand il y a toute une partie en insécurité, donc on ne peut même pas oser de prévenir des développements ou quoi. Donc, on attend, on a dit que on a tout bon, on attend, mais nous revenons sur les facteurs volonté politique et militaire de part et d'autre, que les uns et les autres jouent à la franchise. Je crois que c'est ce qui manque, parce que quand on dit qu'on a tout, et que sur place, il y a des tueries, sur place, il y a ce que nous voyons, on peut commencer à se poser des questions. On a tout, mais pourquoi la situation reste comme ça?
Voilà, merci beaucoup Franck, vous avez dit, vous avez répondu à l'appel lancé d'ailleurs par le chef de l'État sur la question du soutien à l'armée. Vous avez évoqué la conférence de presse tenue conjointement par le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Muyaya, avec le général Alain Kasunga, porte-parole des FARDC, ainsi que le colonel Pierrot Manampoutou, porte-parole de la police, dans le point de presse au cours duquel on a appelé la population à pouvoir soutenir les militaires sans, bien sûr, les décourager ni utiliser de messages de démoralisation. C'est que vous l'avez dit, vous vous engagez à pouvoir les soutenir, mais vous demandez aussi qu'il y ait la franchise, n'est-ce pas, entre l'action militaire, l'action politique, pour arriver vraiment à mettre fin à cette question de l'insécurité. Merci beaucoup, Franck. Sylvain, vous êtes à Kisangani. Merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour, Sylvain.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à notre invité.
On vous écoute, Sylvain.
Oui, d'entrée de jeu, monsieur le journaliste, je dirais que la RDC n'a pas encore réussi à former une armée et une police professionnelle et bien organisée. Nos forces armées congolaises et celles de police nationale congolaise sont des spécialistes en violation des droits de l'homme contre la population civile. On a besoin de rappeler la statistique élevée enregistrée en 2016 lors des événements de Kamina Sapo.
Alors, oui, Sylvain, si nous partons du fait que nous parlons de ce qui doit être fait maintenant pour permettre à ce que la situation s'améliore, qu'est-ce qui doit être fait maintenant pour accompagner l'armée et la police pour la réussite exactement de cette question de lutte contre l'insécurité dans les deux provinces?
Je voudrais chuter par là pour dire que pour qu'il y ait vraiment une réussite totale dans cet état d'urgence, les forces armées, les nouvelles autorités doivent bien se comporter vis-à-vis de la population civile, envie de travailler en synergie avec elle, puisque le feu brûle très haut si chacun y apporte un morceau de bois. Donc, on ne peut pas les mettre dans une situation où la population serait en l'impossibilité de contribuer. seuls, ils ne peuvent pas, ou les forces armées seules ne peuvent pas trouver solution. Il faudrait qu'il y ait un travail en synergie. Mm-hmm. Et dans ce cas, il faut sécuriser très bien la population au lieu de mettre maintenant les bateaux dans les roues.
Merci, merci beaucoup Sylvain. Vous estimez que si les nouvelles autorités prennent comme priorité la sécurisation de la population pourra collaborer et il faut une synergie entre la population ainsi que les forces armées pour arriver à mettre fin à l'insécurité. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Kisangani, Sylvain. Maître Edmond, vous êtes en Bandaka. Merci Maître Edmond de nous avoir rejoint. Bonjour. Maître Edmond, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour M. Pierrot, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Voilà, vous avez suivi hein, les compatriotes, il y a tout à l'heure Franck qui a évoqué la question de la franchise, n'est-ce pas, dans la collaboration entre les autorités politiques et militaires. Il y a Sylvain qui estime qu'il faut sécuriser la population pour que celle-ci collabore, n'est-ce pas, avec les forces armées. Et c'est comme ça qu'ils peuvent aller ensemble sur le terrain pour mettre fin à la question de l'insécurité. Quel est votre point de vue par rapport à ces préalables qui doivent accompagner les travaux des nouvelles autorités militaires dans ces deux provinces?
Merci, merci beaucoup. Moi, je crois que d'abord, d'entrée de jeu, je voudrais signaler que notre armée ainsi que la police nationale est toujours sont toujours professionnelles. C'est question de la volonté politique. En ce qui concerne l'état de siège, c'est vraiment une très bonne décision de la part du chef de l'État et nous l'encourageons parce que nos frères et sœurs de cette partie du pays doivent également vivre en paix comme nous de l'Équateur ainsi que de certaines provinces. Mais en ce qui me concerne, pour réussir à cette décision, à ce régime exceptionnel d'état de siège, d'abord j'ai trois préalables à pouvoir proposer aux autorités politico-militaires. D'abord, je souhaite qu'il y ait une forte sensibilisation de la population parce qu'on sait que dans un état de siège, c'est un état où un état de discipline, il faut que l'on dise, et puis c'est un état où les droits humains sont restreints et c'est un régime d'exception, mais je souhaiterais que les gouverneurs ainsi que d'autres autorités militaires qui seront installées puissent bien sensibiliser, coopérer avec la population pour essayer un peu de démanteler les sources d'insécurité qui sévit dans cette partie du pays. En plus, j'aurais également souhaité la participation active des notables ainsi que des députés nationaux et les sénateurs de cette partie parce que nous avions suivi même dans une allocution du président de l'Assemblée nationale où il accusait même qu'il y a certains députés nationaux de cette contrée qui se mêlent également dans cette insécurité qui alimente les groupes des armées ainsi que les forces armées occultes. Voilà pourquoi j'aurais souhaité que les autorités militaires qui sont nommées puissent coopérer également avec les députés et les notables de cette contrée pour pouvoir trouver une solution. Et à la fin, c'est de la part maintenant du gouvernement, parce que vous savez que nous avons des gouverneurs militaires et puis ça va leur poser les problèmes des moyens. Vous savez, avec les gouverneurs civils, ils savent comment mobiliser les recettes pour alimenter la province, mais cette fois-ci, c'est un régime d'exception, un état de siège qui nécessite des moyens nécessaires. C'est ce qui faisait que l'insécurité ne puisse pas prendre fin. Nous avons une armée bien outillée, une armée bien formée, mais l'État congolais n'était pas en mesure de pouvoir doter des instruments, des moyens logistiques importants, ainsi que des moyens financiers nécessaires pour que les autorités militaires puissent bien faire face à cette insécurité. C'est sur base de ce préalable-là, si ces préalables sont respectés par les uns et les autres, nous pourrions quand même voir retrouver une paix durable dans la partie est de notre pays.
Merci beaucoup Edmond. Vous avez insisté sur la question de moyens, la sensibilisation de la population, la coopération entre les élus, les notables, et je crois, et c'est à ces niveaux qu'on peut arriver vraiment à mettre fin à cela. François, merci d'être avec nous, d'Ilebo, dans la province du Kasaï. Bonjour François. François, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, François est un peu distrait sur sa ligne. Hein. Nous avons... cette fois-ci, Marie-Paul qui est à Kisangani. Marie-Paul, merci de nous avoir rejoints dans ce débat. Bonjour Marie-Paul.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Et pour vous, quels sont les préalables, Marie-Paul?
Oui, monsieur le journaliste, la mesure de l'état de siège décrétée par le président de la RDC ne peut apporter les résultats escomptés que sur la République démocratique du Congo arrive à sécuriser effectivement en premier lieu ses frontières internes et externes. Mmh. Et en deuxième condition, la RDC doit mettre en place une stratégie de l'interconnexion sécuritaire de toutes les provinces. Et cela va permettre que les provinces se forment à tout moment lorsqu'il aura des menaces de rebelles. En troisième lieu, on doit, la RDC doit interdire formellement toute exploitation des minerais dans les zones à conflit ou dans les zones à haut risque, parce que nous savons ce qui est aussi autour des attaques que nous connaissons des rebelles, c'est l'exploitation des minerais. Alors, autre préalable, c'est qu'on doit mobiliser des fonds aussi des logistiques, c'est-à-dire on doit acheter des drones, on doit acheter des matériels, des armes qui vont permettre justement aux forces armées congolaises à faire une offensivité farouche contre ces rebelles-là, parce que nous savons, c'est depuis très longtemps que notre pays est dans l'embargo. Je pense que comme il y a cet état de siège, on doit négocier pour que la RDC arrive justement à acheter des armes ou des moyens logistiques qui vont permettre à nos forces armées à bien vouloir combattre, bien évidemment, avec force de, avec une présence des forces, ces rebelles. Et en cinquième lieu, on doit opérer, comme je l'ai toujours dit, on doit opérer la réforme au sein de notre système armé, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que notre force armée ou notre armée est infiltrée à tous les niveaux. Il faut qu'il y ait des réformes.
Voilà, on a perdu Marie-Paul, dommage, car il évoquait la question de réforme, dommage qu'on a perdu la liaison avec Kisangani. Il a parlé de la sécurisation des frontières, il a parlé de la stratégie d'interconnexion sécuritaire avec d'autres provinces. Il faut interdire l'exploitation des minerais dans les zones de conflit et la question de la mobilisation logistique, la mobilisation des fonds, tout ce qu'il faut. Et voilà, et il a aussi évoqué la question de la réforme de l'armée, c'est là que nous l'avons perdu. 081 890 49 69 c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Si François est là, il va garder la ligne le temps que notre invité puisse réagir aux différentes propositions de nos auditeurs. Je rappelle encore que vous pouvez également commenter les sujets sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Alors, nous revenons dans ce studio, Monsieur Jacques Sonaoussé, député national élu d'Irumu en Ituri. Vous avez suivi les compatriotes, hein. Chacun a pu exposer ce qu'il croit être vraiment les préalables importants pour la réussite de ces opérations. Votre point de vue, commentaire par rapport à ce qui a été dit par les compatriotes.
Exact. Nos compatriotes, à partir de Franck jusqu'aux dernières personnes qui a intervenu, ils ont parlé des choses importantes. Mais nous, d'entrée déjà, je peux dire que il y a quelqu'un qui a parlé sur le compréhensible la sensibilisation de la population, ou la conscientisation ou l'application des élites, quelque chose comme ça. Je dis non. La population de l'Ituri et celle de Nord-Kivu sont préparés. Ils sont préparés. 20 ans, des décennies de guerre dans ces zones, c'est pas peu. Il y a les gens qui sont nés, grandis, comme ça, dans la guerre. Ils sont préparés. Ils sont préparés aussi par les sorts qu'ils subissent. Ils sont préparés aussi par les affres, par la souffrance qui a touché, n'est-ce pas, chacune d'elles. Ah donc, c'est-à-dire, les autorités militaires, étant donné que l'état de siège, c'est un régime spécifique, ils n'ont pas suffisamment de temps. On les décrète comme ça pour 30 jours. Et 30 jours après, il faut que le Parlement se réunisse pour donner la prorogation. Mm-hmm. Donc, ils n'ont pas le temps de la sensibilisation. La population, elle est déjà sensibilisée. Les élus savent déjà ce qu'ils doivent faire. Ils doivent aller au bi. Et pour aller au bi, pour moi, j'ai dit le préalable, c'est le déploiement à un nombre suffisant de militaires dans la zone. L'Ituri, c'est une province de plus ou moins 64 000 km², avec plus ou moins 12 millions d'habitants. Nord-Kivu, c'est un peu plus, avec 80 000 km², et avec 25 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Et dans des zones comme ça, vous ne pouvez pas envoyer 2000 personnes pour sécuriser 64 000 km². C'est impossible. Donc il va falloir qu'on intègre cet aspect cet aspect technique lié au déploiement. On déploie à la hauteur des menaces. Je vous informe que nous avons 5 territoires. Dans ces 5 territoires, 12 groupes armés. Donc c'est-à-dire, les menaces sont présentes dans chaque groupement à peu près. Ah donc, ce régime spécifique doit répondre à ces besoins-là de déploiement. Au-delà de ce déploiement, la zone Litouri et la partie menacée de Nord Kivu, c'est une partie forestière. Il va falloir qu'on interroge aussi l'aspect technique. Parce que la guerre dans la forêt, ce n'est pas comme la guerre au niveau de la savane. Mm-hmm. Kinshasa est entouré par la savane et tout, mais cette zone-là, elle est forestière. Il va falloir qu'on intègre. Si on veut doter à logistique les militaires pour faire face à ce banditisme dans la zone, il va falloir que la logistique soit vraiment une logistique bien choisie, de manière que les militaires ne soient pas aussi exposés. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la troupe. Mais une troupe qui n'est pas bien outillée, c'est aussi une troupe que vous exposez tout de suite. Mm-hmm. Donc, je parle de la troupe suffisante en nombre, tout en tenant compte de la démographie de la zone, tout en tenant compte de la géographie, de la superficie de la zone. Il faut qu'on intègre cet aspect-là dans les déploiements en nombre et en logistique. À cela, j'ajouterai aussi l'actualisation des chaînes de commandement. Parce que s'il suffira tout simplement d'envoyer les gouverneurs militaires et laisser, n'est-ce pas, la chaîne de commandement telle qu'elle était, avant que les choses se dégradent, je me dirai aussi, il se posera un problème.
Mais on sait donc, déjà que, par exemple, comme le Nord Kivu, avec le commandement des opérations Sokola, il y a déjà des changements, il y a déjà de nouvelles autorités, de nouveaux généraux qui ont été nommés.
Exact, ça c'est une bonne chose. Ouais. C'est ça que j'appelle, c'est ça que j'ai dit comme préalable. Il va falloir que la chaîne de commandement puisse être aussi actualisée, mm-hmm. de manière que les efforts soient bien conjugués. Et à cela, je termine peut-être, à ce stade-ci, en disant, il y a aussi un problème de gestion des fonds alloués aux militaires qui sont à l'Est. Il y a ce problème-là. Nous sommes députés. Moi, je suis député. Quand on est député, on parle avec la population, on parle avec les services de sécurité, nous parlons même avec les militaires qui sont au front. Mais un militaire qui est au front, à la première ligne d'attaque, s'il te plaît. À la première ligne, c'est lui, devant lui, c'est seulement l'ennemi. Il n'y a pas une autre personne devant lui, c'est l'ennemi. Mais il vous dit la manière dont il a laissé sa famille, la manière dont lui-même est venu sur le front, vous vous dites qu'il n'y a rien. Sur le plan moral, les gens sont démobilisés. Donc, la gestion des fonds. Moi, les gens animent le débat de dire que non, les militaires ne sont pas bien payés, il n'y a pas l'argent pour les militaires. C'est un fond débat. L'argent, il y en a. L'argent, il y en a, c'est mal géré. Il ne faut pas qu'on le dise autrement. L'argent est plutôt mal géré. Il va falloir que le chef de l'État, parce que c'est lui, effectivement, le comptable de tout cela. C'est lui le symbole de l'unité. Il faut qu'il puisse gérer l'Ituri et Nord Kivu dans cette période d'une manière spécifique. Mm-hmm. L'argent doit sortir. Et là, j'interpelle le nouveau ministre que je salue de la Défense. Parce que ça va relever de ses compétences, effectivement, la gestion des opérations et tout et tout. Avec le chef de, avec le commandant général, avec le chef d'état-major général, bien sûr, ce sont les deux autorités. Mais nous, au niveau du Parlement, parce que nous ne serons pas allés, conformément à la Constitution, on ne sera même pas allés à la vacance parlementaire, aussi longtemps qu'une partie de notre pays sera déclarée sous l'état d'urgence. Donc nous allons continuer à rester, mais spécifiquement pour eux. Il va falloir que le ministre de la Défense et les chefs d'état-major général veillent sur la traçabilité de tout ce qui sera mis à la disposition de l'armée au niveau de l'Ituri et
du Nord Kivu. Mais alors, quand il y a notre ami Marie-Paul, tout comme Maître Edmond, insiste sur l'implication, la participation des notables, c'est parce que vous avez suivi, même sur Radio Capi, quand on a fait l'information sur les défis qui attendent les nouvelles autorités en Ituri, par exemple, il y a la question de la collaboration de la population, par exemple, avec des groupes armés qui cachent, par exemple, des armes dans les maisons, ou soit certaines personnes qui estiment que les groupes armés sont là pour nous défendre, on peut collaborer avec eux. Et c'est pourquoi, quand on parle de l'implication, c'est parce que vous, les élus, vous avez beaucoup d'informations que vous pouvez mettre à la disposition des autorités, parce que vous êtes sur terrain, vous savez effectivement dans quel est le groupe armé qui travaille, qui est dans telle forêt, il provient d'où, qui l'a créé. parce que c'est vos bases qui sont vraiment concernées. Vous pouvez avoir assez d'informations que vous pouvez livrer facilement à ces autorités.
Nous restons ouverts. Pour cela, je ne pense pas qu'on doit pouvoir nous sensibiliser outre mesure pour qu'on ait, parce que nous sommes
c'est les responsabilités automatiques.
Nous sommes les premières victimes d'ailleurs de cette histoire. Vous-même vous parlez. Que ça soit sur le plan sociologique, ce sont nos familles qui meurent. Que ça soit sur le plan politique, ce sont nos électeurs qui apathissent. Ah, donc nous sommes les plus grandes victimes. Ah, donc notre appui n'est pas conditionnel. Notre appui n'est conditionné à rien.
C'est automatique.
Nous sommes disposés à chaque minute, à chaque seconde, que cela sera nécessité, nous allons pouvoir donner notre contribution, notre assistance, notre appui et tout et tout. Donc de ce point de vue là, je ne vois pas que cela peut faire objet du débat. Mais plutôt si on règle les questions de déploiement, les questions de la logistique, les questions des chaînes de commandement, les questions de la gestion rationnelle des moyens alloués aux militaires qui sont au front, moi je pense que le reste doit c'est pouvoir partir à la roulette.
Alors on retourne, je crois bien, nous avons encore quelques auditeurs qui veulent bien intervenir, mais si le débat vous intéresse, allez rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, et vous pouvez vous exprimer sans beaucoup de difficultés. Deo Gracias nous appelle de Kananga, dans la province du Kasaï de Central. Deo Gracias, merci d'être avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur J.R. Bonjour aussi à notre invité.
On vous écoute, Deo Gracias.
Oui, nous saluons, n'est-ce pas, l'avènement de l'état d'urgence. C'est une bonne mesure prise, n'est-ce pas, par l'état congolais. Mais l'état d'urgence, n'est-ce pas, pour nous, signifie que c'est une dernière cartouche pour l'état. Parce que cet état, n'est-ce pas, doit mettre d'abord au préalable toutes les mesures possibles, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, arriver, n'est-ce pas, au bon port, ou soit à de bons résultats sur cet état de siège. Maintenant, il y a un problème. Comme c'est la dernière cartouche, si ça réussit, ok, ce sera une bonne solution. Ça doit, n'est-ce pas, pérenniser une solution, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de l'Est. Mais si ça échoue, c'est par là que ça posera un problème. Mais assez pour ne pas arriver, n'est-ce pas, à l'échec, qui doit occasionner des graves violations des droits de l'homme, qui doit générer, n'est-ce pas, des violences, n'est-ce pas, incontrôlées ou incontrôlables au niveau de l'Est. Il faut, n'est-ce pas, au préalable, n'est-ce pas, tenir compte de certaines mesures avant de prendre cette décision. Il y a, n'est-ce pas, d'abord, quel l'État pouvait d'abord, n'est-ce pas, avoir un budget conséquent à louer, n'est-ce pas, à cet état de siège, pouvant, n'est-ce pas, équiper bien l'armée, équiper bien, n'est-ce pas, l'armée dans tous ces niveaux, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit, n'est-ce pas, en armement, que ce soit, n'est-ce pas, au moyen de déplacement, les engins, pourvu que l'on ne tombe pas dans des situations telles que non, il n'y avait pas de financement. Parce que quand il n'y a pas de financement, à ce moment-là, l'État ne saura pas, n'est-ce pas, arriver à une bonne solution et on mettra la pharmacie à une grande difficulté, comme nous avons toujours vécu cette situation-là. Après un certain temps, la pharmacie va, n'est-ce pas, se pernicher pour dire on n'avait pas de moyens. Une deuxième solution, c'est qu'il fallait répertorier d'abord tous les groupes armés et les réseaux de financement de ces groupes armés, que ce soit au niveau des forces armées, la FARDC peut aussi infiltrer, pourrait aussi être infiltré, n'est-ce pas, en son sein, par rapport, n'est-ce pas, au filtrage, n'est-ce pas, au fil d'informations, au moyen, n'est-ce pas, de guerre, aux techniques de guerre, il peut y avoir d'infiltrer au niveau de FARDC, même au niveau de politique. Nos politiques, n'est-ce pas, sont mal, n'est-ce pas, habitués à financer les groupes, certains groupes terroristes. Bien que nous avons certaines, il y a, n'est-ce pas, certaines allégations que les gens lèguent, bien qu'il n'y a pas de fondement. Quand il y a déjà des rumeurs qui circulent, cela veut dire qu'il y a toujours, n'est-ce pas, quelque chose, parce qu'il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Il y a aussi, n'est-ce pas, la population. Ces groupes armés ont déjà formé des familles, ils ont déjà créé, n'est-ce pas, des relations au sein de l'Est. Il fallait, n'est-ce pas, aussi répertorier au niveau de la population pour voir qui, n'est-ce pas, cohabite ou qui, n'est-ce pas, est en relation avec les groupes armés pour éviter, n'est-ce pas, toutes les fuites d'informations ou, n'est-ce pas, éviter que les techniques de guerre ou le technique, n'est-ce pas, de riposte contre, n'est-ce pas, à ces groupes armés, ne soit pas, n'est-ce pas, aussi informé aux groupes armés. Il y a aussi un autre point, n'est-ce pas, qu'il faut se tenir compte. La formation sur le droit international, sur la déclaration internationale des droits de l'homme et le droit international humanitaire. Il faut que nos forces armées soient bien informées quant à ça. Il fallait qu'ils connaissent quelles sont les techniques de guerre à prendre. Qui est combattant, qui n'est pas combattant. Parce que nos forces armées, il arrive des fois qu'ils s'attaquent à des populations civiles. Il arrive des fois que il commence, n'est-ce pas, à commettre le même
Et là, ce que vous exprimez, Deogracias, vous exprimez les craintes, bon, qui ne sont pas arrivées, mais vous estimez qu'il faut prendre en compte tout cela comme préalable pour éviter qu'on soit accusé demain d'avoir violé le droit de l'homme. Vous avez évoqué un budget spécial, la logistique, couper les réseaux de financement des groupes armés, la transmission des informations au sein de l'armée. Il y a cette question de la moralité qui a été évoquée tout à l'heure par notre invité. Cela veut dire qu'il y a une franchise, une moralité qui doit être considérée. Mais vous avez aussi insisté sur la collaboration de la population, parce que certains membres des groupes armés ont peut-être des ramifications dans le village, où ils sont par exemple originaires. Alors tout ça, ça va être pris en compte. Merci beaucoup, Deogracias de Kananga. Maître Mopila, vous êtes à Guémena. Maître Mopila, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, JR. Bonjour, vous êtes à la radio Capi.
On vous écoute.
D'entrée de jeu, par rapport au thème de la journée, par rapport à l'état de siège, j'ai dit par définition, l'état de siège, c'est une mesure exceptionnelle de la nation, entre autres les chefs d'État, vont pour chercher à résoudre ou à remédier aux problèmes qui mettent au mot constitution tant nationale que provinciale. Mais les gens s'étonnent par rapport à la question de la base juridique. Et je rends cette question-là au 1.85.
Oui, là on a des problèmes. Dommage, Maître Mopila, on a des petits soucis avec votre ligne téléphonique. Hein. Si vous pouvez peut-être vous déplacer, ça peut aller, parce que là on vous capte difficilement. Si vous pouvez peut-être changer de position tout en intervenant, Maître Mopila.
Ok, j'ai changé la position, je suis maintenant à l'écoute, monsieur Gilles.
Voilà, vous étiez en train d'évoquer tout à l'heure la question des bases juridiques, mais là on avait perdu votre intervention.
Oui, la base juridique est sur l'article 85, ici par contre l'article 69, 144 des lois fondamentales de notre pays, qui donne le pouvoir au chef de l'État et à la loi de faire à ce que le chef de l'État soit décrété. Mais le grand problème est que la décision prise par le chef de l'État doit être soutenue par nous, la population, et à toute la population de l'Est. Pourquoi je dis ça, M. J.R.? Je dis ça pour demander à ce que le gouvernement Samba puisse mettre à la disposition de nos forces armées et à la police les moyens conséquents pour permettre à ce que nous puissions éradiquer toutes ces forces armées installées d'une manière arbitraire et qui peuvent découvrir le sort de la population au niveau de l'Est. Mais aussi et surtout, j'ai toujours entendu à la radio parler des DDR-3R. Moi, personnellement, je suis très question à l'état de siège. Il faut que cette question de DDR-3R puisse s'arrêter, parce que nous sommes devant une situation exceptionnelle. Il faut maintenant qu'on puisse frapper, non, commencer à doter les gens à la radio, nous ne voulons pas cette question-là. Là, pourquoi je demande à ce que non, pendant cette période de siège, que tous les droits des citoyens intangibles pendant cette période soient respectés. Pourquoi je dis ça? On doit d'abord faire à ce que qui n'est pas violation des droits de l'homme. Parce que la vie humaine est sacrée. On doit respecter les droits à la vie. Que l'interdiction formelle soit donnée aux militaires qui sont là-bas à respecter d'abord, les droits reconnus à tous citoyens congolais. Entre autres, les droits de défense, les droits de défense, les recours librement, l'interdiction à l'emprisonnement pour dettes mais aussi à la liberté de penser.
Mais si vous avez suivi, d'ailleurs, si vous avez suivi, oui, Maître Mopila, malheureusement, il y a toujours des petits soucis avec votre ligne téléphonique, mais déjà, globalement, on vous a suivi. Mais si vous avez suivi, n'est-ce pas, le point de presse, comme le disait Franck en début d'émission, qui a été élu par, conjointement par le porte-parole du gouvernement, le porte-parole des FARDC, le porte-parole de la police, tous les droits ont été répertoriés qui doivent être respectés pendant cette période, et ça, c'est très important. Mais vous avez évoqué la question de la démobilisation des DR. Vous estimez que cela fait que beaucoup de gens qui ont pris des armes, quand ils sont démobilisés, ils retournent dans leur milieu. C'est comme si on les dorlotait et demain, ils reprennent encore. Pourquoi vous estimez qu'il faut carrément mettre fin à cela, mais utiliser une option qui fait que chacun puisse être responsable de ses actes. Merci beaucoup, Maître Mopila. On revient à vous, Jacques Sonaoussé, député national élu d'Irumu. Et d'ailleurs, quand on a eu, en début de semaine passée, l'émission avec le gouverneur du Nord Kivu, on a évoqué cette question des démobilisations où il y a même le député national Mohamed Boulé qui était avec nous dans ce studio a insisté sur la question de la justice pendant cette période pour estimer que les gens qui ont pris des armes, qui ont tué les autres, il faut quand même qu'ils répondent, n'est-ce pas, pendant cet état d'urgence, que la justice accompagne vraiment cette action pour éviter que les gens croient que le fait de prendre des armes, d'être amnistié demain et de revenir encore ou de se retrouver au sein de l'armée ou dans les institutions, c'est juste un quitus qui permet que d'autres personnes puissent prendre des armes. Alors, quel doit être cet aspect de démobilisation, cet aspect de la justice qui doit accompagner cette période d'état de siège?
Exemple. La question de la justice et cette question de l'insertion sociale n'est pas suspensive. L'un ne suspend pas l'autre. Mm-hmm. La justice doit être là. La justice doit accompagner parce qu'on dit la démobilisation. La démobilisation, on ne le fait pas. Hein, on ne fait pas la démobilisation d'une manière collective. Mm-hmm. On démobilise un à un tout en tenant compte de ce que chacun a pu faire dans ceci ou cela. Voyez-vous, donc, moi je pense que c'est l'État qui intervient. Et l'État, quand il intervient, le premier facteur que l'État utilise, c'est la protection de vie, mm-hmm. des vies humaines. Ah, donc, moi je pense que pour ceux qui vont pouvoir tout de suite montrer la volonté de quitter, je profite derrière votre antenne, mm-hmm. parce que je suis de l'Est, de demander à mes frères qui ont des armes, à mes frères et à nos amis qui ont des armes, d'abandonner cette initiative, de déposer, de ne pas attendre la puissance des faits, de ne pas attendre l'affrontement avec les FARDC, mm-hmm. de déposer déjà les armes. Parce que nous écoutons, vous aviez dit ici qu'il y a des personnes qui cachent les armes et tout. Cacher les armes ne peut pas nous permettre d'avancer. C'est pour cette raison que j'appelle à toute personne, au nom qui vous a nitouré, détenant les armes, de déposer avant que ça soit tard. Parce que cette histoire ne nous a pas profité. Nous sommes mm-hmm. tous perdants. Nous sommes tous perdants. Ce sont nos mamans qui ne vont pas à la maternité. Ce sont nos enfants qui n'étudient pas.
L'école.
Nous sommes tous perdants. État perdant, réveillons-nous, abandonnons cette initiative, réfléchissons autrement pour que les choses aillent mm-hmm. de l'avant. Donc moi je pense que la justice et DDRC ne sont pas des éléments suspensifs, okay. ils peuvent se compléter entre eux et nous devons les soutenir tous. Nous soutenons au même moment la justice est la vraie, la justice est la forte, mmh. la justice est la répressive et aussi un vrai DDRC qui intègre effectivement mmh. les gens qui vont pouvoir abandonner l'initiative à bonne et due forme.
Il y a Marie-Paul de Kisangani qui évoquait tout à l'heure la question d'exploitation minière dans des zones de conflit où il estime que pendant cette période, ça ne serait pas mauvais qu'on dise, qu'on suspende quand même cette exploitation parce qu'elle alimente d'ailleurs beaucoup de groupes armés profitent d'exploitation des ressources naturelles dans certains milieux pour pouvoir continuer à entretenir l'insécurité.
Ça, ce sont des causes profondes. Mm-hmm. On peut aussi dire que non, il y a un problème de grogne sociale dans la zone. Parce que vous allez comprendre, outre la question d'exploitation des minéraux comme facteur qui, n'est-ce pas, alimente la prolifération des groupes armés, il y a aussi cette question de la grogne sociale, cette mmh. question de la pauvreté, cette question de faible investissement dans la zone. Je prends le territoire de Djougou, c'est ce grand territoire, sa route, sans investissement, sans industrie, avec une démographie très élevée. Et tout de suite, c'est une zone qui devient une zone fertile pour que quiconque de mauvaise volonté puisse s'y installer, mm-hmm. recruter les jeunes et à faire des désordres. Ah donc, ça, ce sont des causes profondes. Et
qu'il faut prendre des mesures avec l'État
de siège ici ne peut pas aller jusqu'à ce niveau-là. Ici, l'état de siège est allé s'attaquer, n'est-ce pas, aux faits.
Et le fait, c'est qu'il y a la présence de groupes armés, qui est la question des minéraux, qui est la question de pauvreté, qui est la question des conflits fonciers, qui est la question des conflits de pouvoir coutumier, peu importe. Mais ici, on voit que vous avez tenu des armes et vous êtes en train de causer des torts aux gens, et par conséquent, on vient faire face à vous. Mmh. Ah, donc, tout en étant d'accord avec mon ami, c'est son analyse, mais cela relèvera, n'est-ce pas, de la gestion des causes profondes qui ne peut venir qu'après que la stabilité, même précaire, voilà, soit retrouvée dans la zone.
Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Merci d'être avec nous dans cette émission. Bonjour, Jérémy.
Oui, bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour également à l'invité. Je pense que le décret de l'état de siège est un geste à saluer à juste valeur, mais cependant, le scepticisme prend encore sur le visage de plus d'un Congolais. Vous savez, il y a peu, hein, on avait aussi responsabilisé, donc ça dit les seigneurs de guerre en l'instar de Thomas et consorts. Mais sur le terrain, la population continue à être meurtrie et loin de retrouver la paix jusque-là hypothétique. Alors je pense qu'à ce stade, il revient maintenant là à ce que nos représentants, hein, c'est-à-dire nos députés au Parlement, puissent d'abord s'attaquer à l'administration. Donc c'est-à-dire mettre un peu d'étalage pour ce qui sera l'administration, comment ils vont gérer la gestion d'abord de ceux-là qui sont affectés. Parce que c'est là qu'il y a un problème. Mais n'oubliez pas, monsieur Pierrot, que souvent on dit l'ennemi, hein, quand il arrive, il a d'abord les gens. Il doit chercher à conquérir les gens sur le terrain avec qui il va pactiser pour pouvoir se retourner contre le peuple. Là, j'en interpelle aussi nos compatriotes qui œuvrent aux côtés de ces troupes négatives-là, de pouvoir prendre conscience et servir la population. On ne peut pas, en même temps, avaler sa propre queue. Ça, c'est inacceptable. Alors, nous voudrions que ceux-là qui sont affectés, quand je parle du parlementaire, c'est qu'ils doivent voter, proposer une loi pour mettre les garde-fous dans la gestion de ceux-là qui sont affectés. Parce que vous savez que c'est là qui décrit aujourd'hui ce système-là de ceux-là qui sont là, c'est parce qu'on ne tient compte de leur vie passée, comment était leur vie passée, parfois teintée des dossiers judiciaires et consorts. Bon, ça c'est entre parenthèses, mais les devoirs de chacun, c'est de les soutenir en leur accordant du crédit pour pouvoir, n'est-ce pas, leur accorder la chance. Notre souhait est que la population va paisiblement à ses occupations. On ne peut pas accepter que cette zone-là soit vraiment affectée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais là, il y a un point important, c'est que nous devons connaître l'arbre d'abord qui cache la forêt. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui tirent les ficelles à l'est. Nous devons connaître, parce que on ne peut pas se voiler la face. Il y a certains de nos compatriotes, peut-être certains qui sont aux affaires, mais qui font semblant d'imposer la paix, mais qui se retournent contre la population. En ce moment-là, nous devons servir notre pays en cherchant la paix sur tous les plans. Comment, nous devons nous poser la question, comment est-ce que la guerre a pris naissance à l'est? C'est par nous-mêmes, Congolais. Alors, lorsque vous appelez des troupes étrangères dans votre pays, il faut poser le préalable. Alors, poser le préalable, ça veut dire leur donner des injonctions. Ils doivent travailler dans la limite des injonctions données par ce pays. Et lorsqu'ils vont au-delà de ces principes, il arrive qu'il y a des ordonnances. Les gens restent et ils continuent à commettre des actes de désolence, tout simplement parce qu'ils doivent tirer des dividendes. Et leur pays en profite. Alors, je pense qu'il revient aujourd'hui à ceux qui sont affectés de prendre confiance et conscience, travailler concomitamment avec la population. C'est la population, c'est comme les crocodiles dans l'eau. La force du crocodile, c'est l'eau. Ça veut dire qu'ils doivent travailler concomitamment avec la population pour déceler toutes les poches noires où l'ennemi est en train de travailler pour les comptes de leurs intérêts au détriment de la population congolaise. Et je préfère que les conseils soient donnés aux civils. Les militaires ne doivent pas travailler seuls. Ils doivent travailler avec les civils qui doivent rester et jouer au bon conseiller. Sinon, on risque parfois de s'accrocher et y rester là-bas et y sortir. Ce serait un problème. Là, je salue quand même les timings donnés, bien que renouvelables, mais c'est un geste à saluer, mais nous voudrions qu'ils mettent en place une politique adéquate. Chercher à déceler dans quelle zone œuvre l'ennemi. Et la population doit accompagner les nouvelles autorités pour la réussite totale. Et lorsque la paix va renaître à l'Est, et c'est peut-être l'autorité de l'État sera reconquise et alors les choses pourront aller dans les bons sens.
Merci,
parce que
merci.
On risque maintenant de connaître encore des petits problèmes à gauche à droite. Parce
merci
que
beaucoup,
on a responsabilisé
Jérémy.
Tant de personnes, voilà. Mais jusque-là, sur le terrain, il n'y a pas
merci
de solution.
Merci beaucoup, Jérémy. Vous avez insisté sur la question de la franchise. Hein. Ceux qui sont affectés, c'est-à-dire que des nouvelles autorités qui doivent vraiment collaborer avec la population pour pouvoir dénicher où se trouve l'ennemi. Mais il y a la question de tirer des ficelles. Il faut que la vérité soit connue. Autant de questions, mais je crois... ce que vous avez dit, l'appui de la population sur la mesure et les nouvelles autorités, vous estimez que c'est très bien. Peter est à Chicapa, merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour Peter.
Bonjour Monsieur Gilles, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute Peter.
Merci beaucoup Monsieur Gilles pour la parole. Dans près de jeu, Monsieur Gilles, je voudrais un peu d'abord porter à... l'intention de l'opinion nationale de la situation qui prévaut d'abord ici au Kassa et particulièrement dans le territoire de Mweka, il est beau et décaissé qui aujourd'hui les enseignants ont fait 3 mois sans être payés. Donc que les autorités au niveau national puissent prendre à bras le corps cette situation qui perdue dans ce coin du pays, de quelle les enseignants souffrent vraiment de manière qui sont vraiment intolérables. Voilà, c'est ce que je voudrais un peu argumenter par rapport à la situation du jour concernant la nomination des militaires pour la zone de l'Est qui nous frappe nous tous chaque fois qu'il y a des massacres de nos amis de l'Est. Je voudrais un peu argumenter en disant que le préalable pour les nominer vraiment, M. J.R., nous leur souhaitons d'abord d'avance un bon travail et ils n'ont pas droit à l'erreur cette fois-ci. Et je pense que la mesure qui a été décrétée concernant les sièges pour les nouveaux, ils doivent d'abord maintenir le premier préalable que moi je constate pour que ces derniers puissent réussir à leur mission, c'est d'abord de maîtriser la zone. Je pense qu'ils ont été nommés, non seulement par rapport à leurs compétences, mais par rapport aussi à leur expérience qu'ils ont prouvée depuis qu'ils sont là, dans le service des militaires. La première des choses, c'est d'abord la maîtrise de la zone. S'ils ont la maîtrise de la zone, là, ils pourront faire tout pour que l'ennemi ne puisse pas échapper à leur contrôle. Deuxième préalable, ce que moi j'ai pensé, c'est d'abord, M. J.R., d'instaurer un système d'alerte qui sera transversal entre les autorités et aussi avec la population qui doit collaborer avec les autorités en place pour que la paix puisse être rétablie dans cette partie du pays. Troisième préalable que moi j'ai soulevé, c'est en rapport avec le management qui doivent appliquer ce terrain. Ils sont autorités, bien sûr, militaires, mais ils doivent nécessairement instaurer un management situationnel. C'est-à-dire quoi? Je voudrais dire quoi par là, M. J.R. Nous savons que la situation de l'Est, c'est une situation qui est inattendue pour tout le monde. Personne ne vraiment ne maîtrise cette zone-là. Alors, par rapport à la situation, quelles que soient les missions leur confiées, aux limites de la condition, ils doivent adapter. Quand ils seront sur place-là, ils doivent adapter la situation.
À la situation. Mais parce que, oui, merci beaucoup, Peter. Merci, Peter, parce qu'il faut permettre aussi aux derniers auditeurs de pouvoir intervenir alors qu'il n'a que peut-être une minute ou 50 secondes, tout simplement. Hippolyte, qui est dans la Lomami. Merci, Hippolyte, d'être avec nous dans cette émission. Bonjour.
Bonjour à Radio Capi.
Voilà, on vous écoute rapidement. Votre point de vue par rapport au préalable pour la réussite de la mission de nouvelles autorités en Ituri et au Nord Kivu.
Oui, d'accord. Vraiment, il faut ne pas disposer d'un cœur humain pour ne pas ressentir la douleur que ressentent nos compatriotes qui sont aux prises avec les sécurités à l'Est. Je pensais ceci, hein, au regard de la complexité de la situation sécuritaire dans cette région de l'Est, avec toutes ces implications, d'une part, des groupes armés locaux qui, initialement, mobilisent autodéfensifs, bien que mêlés à l'affairisme et d'existence tribalo-racialo-communautaire avant de se comporter en vrai sujet contre l'État. Et d'autre part, des groupes étrangers à mobiles, doctrinaux religieux, je suppose la réussite de l'action de ces nouvelles autorités sous 4 préalables. L'obtention d'abord par ces autorités de l'adhésion populaire, de l'adhésion des populations locales au projet de la paix. Deux, aux notables, chefs coutumiers, activistes et droits de l'homme, de la société civile, leaders politiques, de la question, autres partenaires bilatéraux, multilatéraux de l'État, qui ont longtemps travaillé dans la dénonciation sans succès, de se comporter cette fois-ci en vrai voilà. Agent de la paix. Un vrai agent de la paix dans les soutiens, à travers les soutiens aux initiatives de nouvelles autorités. Des trois, le programme BDR, la mise voilà. en place d'une véritable structure.
Voilà. Et malheureusement, Hippolyte, on est vraiment bousculé par les temps. Vous avez évoqué l'obtention de l'adhésion populaire, l'obtention de l'adhésion des notabilités, la collaboration avec la société civile, la dénonciation. Et on revient à vous, Jackson Aoussé, député national élu du Romou, pour conclure cet échange. On a suivi les uns et les autres. Il y a quand même cette volonté de l'Assemblée, de nos auditeurs, de pouvoir soutenir l'armée, de pouvoir soutenir la mission dévolue à ces autorités pour le retour de la paix. Et ça, c'est déjà un point positif, le fait que les gens accompagnent, les gens décident de pouvoir les soutenir, mais qu'ils voudraient aussi voir du côté des autorités le répondant, cela veut dire les mesures concrètes qui doivent être prises pour accompagner ces actions. Alors, pour conclure cet échange.
La population de l'Est a besoin de retrouver le sourire sur le sourcil, ses lèvres. Et les officiers, nos officiers nommés, les militaires, les policiers qui sont nommés, ont la mission d'écrire une nouvelle page, de tourner la page noire de la souffrance de la population de l'Est. C'est pour cette raison qu'ici, à ce stade, le moment n'est pas au discours, le moment n'est pas aux propositions, le moment est aux actions. Il faut qu'il y ait des actions fortes. Et les actions fortes, c'est de mater. Il faut qu'il y ait démantèlement, c'est cela les indicateurs, qu'il y ait démantèlement des groupes armés. Qu'il y ait retour progressif des déplacés dans leur village. Qu'il y ait, n'est-ce pas, les routes soient ouvertes et que les gens commencent à circuler au travers les provinces. Ah, donc moi je pense que cela va nous permettre d'aller de l'avant. Et je profite de votre attente pour lancer un appel pathétique à la population. La population a des armes dans cette histoire. Première arme de la population, c'est la dénonciation. La population ne peut que servir comme une arme de la dénonciation, et la population peut aussi servir comme une arme de la désolidarisation. Il suffit que la population dénonce et se désolidarise éventuellement aux groupes armés à Merci. Caractère communautaire. Et moi, je pense que l'efficacité de l'action du gouvernement ne sera pas à démontrer.
Merci beaucoup, Jackson Aoussé, député national élu du Romou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Willem Lungamba qui était à la mise en onde de ce magazine réalisé par Jocelyne Mukendi. Quant à moi, Pierrot Elamegi, je vous retrouve demain avec l'ensemble de l'équipe pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Mais vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiocapi.net. Merci et au revoir.